Marie-France Bishop, nous vient de l'IUFM Nord-Pas-de-Calais. Elle fait partie du laboratoire Théodile, qui est dirigé par Yves Retter. Son parcours, avant d'arriver à l'UFM Nord-Pas-de-Calais, l'a fait traverser, je crois, à peu près tous les lieux d'enseignement possibles, de l'école primaire jusqu'au lycée. Et donc, elle va nous parler ce matin de la manière dont l'école primaire, en termes d'histoire, a pu être amenée à solliciter le vécu des élèves. Voilà.
Alors, pour démarrer sur ce sujet, ça marche, oui. Je pense que chacun d'entre nous se souvient certainement d'une rédaction à l'école primaire dans laquelle on lui demandait de raconter un souvenir personnel. Qu'il s'agisse de ses dernières vacances, qu'il s'agisse du jour de la rentrée. Et je crois que si nous partageons cette expérience, eh bien, c'est que le récit du vécu a existé et existe encore à l'école sous des formes variées. Alors, ce matin, donc, c'est sur cette notion de sollicitation du vécu dans le cadre scolaire que je souhaite travailler avec vous. Et je vais vous en proposer une approche historique qui, bien sûr, sera tracée vraiment à grands traits à travers, donc, les différents modèles de la rédaction dans le primaire. Cependant, un premier point d'éclaircissement, que peut-on entendre par sollicitation du vécu à l'école? Comment se manifeste-t-elle et quelles en sont les marques? Alors, d'une manière peut-être un petit peu trop formelle, je considérerais que la sollicitation du vécu dans le cadre scolaire se manifeste par une demande explicite et par un emploi de la première personne dans les écrits des élèves, ce qui me permet bien sûr de cadrer un corpus. Donc il s'agit dans ce cas d'un type d'écrit bien particulier, et pour ces écrits, eh bien, nous allons nous interroger sur la place et le rôle qu'ils occupent à l'école primaire au cours des différentes époques. Alors, pour apporter donc des réponses et un certain regard à ces questions, eh bien, je vais emprunter un axe historique en m'appuyant donc sur les textes officiels de l'enseignement primaire, et je vous présenterai également quelques travaux d'élèves. Alors, la périodisation, ça ne marche pas. Voilà. Donc, la périodisation que j'ai retenue et que vous voyez donc sur la diapo, et inspirée en partie des travaux d'André Chervel et ceux de Marie-Hélène Vourzet, je les ai bien sûr, je l'ai adapté, cette périodisation, à mon propos, en considérant donc que la rédaction à l'école primaire connaît trois grands modèles. Donc le premier, qui est celui de la rédaction traditionnelle, qui est instauré sous la Troisième République, donc par les textes que vous voyez, les textes de 1882, les textes de 1923 reprennent ces textes. Les textes de 1938, eux, ne concernant que les cours supérieurs et les cours de fin d'études, non, ne les modifient pas. Et ce modèle même va durer, hein, malgré l'interruption de Vichy, puisque en octobre 45, eh bien, on reprend, hein, dans les programmes, on reprend donc ces textes. Donc, ce modèle connaît une grande stabilité. Et le second modèle est celui commence vers 1960, hein, il est issu des travaux, des recherches de 1969, il est marqué donc par les textes, par le plan de rénovation de 1971, et enfin par les instructions officielles de décembre 72. C'est le modèle également qu'on peut appeler de l'expression écrite. Le troisième modèle donc correspond à ce qu'on appelle une didactisation de l'écriture. Il est amorcé donc par les textes de 1985. Il continue en 1995, hein, les textes de février 95. Et on peut se demander si les programmes de 2002 instaurent un nouveau modèle ou entrent dans ce troisième modèle. Hein, c'est une question pour l'instant. Et c'est vrai que l'idée, c'est que comme ils introduisent un nouveau type d'écrit, les écrits réflexifs, eh bien, il est possible que là, nous assistions, hein, certains chercheurs le pensent, à l'émergence de nouveaux modèles. Voilà. Donc ce troisième modèle est celui de la production de texte, hein, puisque l'expression production de texte est utilisée en 1995. Alors, la première partie donc concernera la Troisième République et ce que j'ai appelé la fictionnalisation du vécu, c'est-à-dire que l'histoire des récits scolaires de souvenirs vécus se confond totalement avec celle de la mise en place de la rédaction. Donc, c'est sous la Troisième République, hein, au tournant des années 1880, sous l'influence des pédagogues du Parti républicain, que la rédaction est introduite officiellement comme nouvel exercice de français. Donc, son adoption constitue une alternative à l'enseignement de la langue dans l'enseignement primaire, puisque avant, eh bien, cet enseignement était fondé essentiellement sur la mémorisation des règles de grammaire. Alors, cette méthode avait déjà été très critiquée depuis la fin du Second Empire par Victor Duruy et Octave Créard, et tous deux avaient déjà suggéré de prendre appui sur ce que les élèves connaissaient de la langue, et de prendre appui également sur la littérature. Et Octave Créard, qui était directeur de l'enseignement primaire de la Seine, eh bien, avait déjà proposé dès 1868 de faire écrire des petits textes aux élèves de son département. Alors, donc c'est le principe d'utiliser l'écriture pour apprendre la langue, qui est un principe nouveau à ce moment-là, qui va être généralisé en juillet 1882 dans les programmes officiels, et on demande, dans le texte officiel, donc on propose, dès le cours moyen, les premiers exercices de rédaction sur les sujets les plus simples et les mieux connus des enfants. Donc la rédaction va s'installer sous cette forme pour 90 ans, et les instructions donc suivantes ne la modifient pas. Il est demandé par exemple au certificat d'études pendant toute cette période d'écrire sur un sujet simple, je cite hein, un arrêté de mars 38, un sujet simple se rapportant à la vie personnelle de l'enfant, scolaire ou familiale. Donc, quels sont ces sujets simples qui se rapportent à la vie personnelle de l'enfant ? Donc pour les connaître, eh bien, nous disposons de plusieurs sources. Il y a bien sûr les manuels, les cahiers d'élèves, et il y a également des sources semi-officielles qui sont par exemple les revues, hein, les revues semi-officielles, également les publications. Alors, j'ai choisi de vous montrer les sujets qui sont proposés pour le cours moyen deuxième année, qui accompagnent les instructions de 1923 dans l'édition Hachette, sachant que Hachette est l'un des éditeurs les plus officiels hein, de cette période. Alors, j'espère que vous réussissez à les lire, je vais vous les lire très vite. Donc, je vous ai mis les six premiers sujets pour que vous voyez ce qu'on entend par des sujets simples se rapportant à la vie personnelle. La clé perdue. Votre mère ayant perdu sa clé en faisant son marché se heurte à son retour à la porte close. Racontez l'incident et dites comment il s'est terminé. Deuxième. Décrivez votre jardin en été au moment où vous vous levez, le soleil encore bas à l'horizon, les feuilles des légumes plus brillantes que la veille, des gouttes de rosée dans le creux des feuilles, les fleurs plus odorantes. Troisième. Les premiers pas de bébé, les encouragements et l'aide de la maman, la chute, maman console et sourit, recommençons. Racontez le jour de la rentrée en analysant vos sentiments, l'école repeinte, les tableaux plus noirs, des camarades partis des nouveaux, le plaisir de se retrouver, la classe paraît agréable. Le vent raconte ses courses folles et les amusements parfois malfaisants auxquels il se livre. Sixième, décrivez votre village ou le quartier de la ville où vous habitez, situation, les rues, les maisons, la place, la circulation, etc. Alors, si on consulte, il y a 40 sujets qui accompagnent ces instructions. Si on consulte ces 40 sujets, eh bien, on se rend compte qu'un peu plus du tiers des sujets proposés s'adressent de manière explicite à l'élève et sollicitent des éléments de sa vie personnelle par un « vous » incitatif. Ce sont les sujets que je vous ai indiqués en caractère gras. La moitié de ces sujets évoquent des situations de la vie quotidienne, comme par exemple le numéro 3, sans faire intervenir donc un « vous » incitatif. Et moins de 20% des sujets sont des sujets de fiction qui font appel à l'imagination des élèves, comme le numéro 5. Donc la question est comment expliquer un emploi aussi important des sujets qui sollicitent le vécu des élèves. Alors pour le comprendre, eh bien, je crois qu'il nous faut revenir aux particularités de l'école de la Troisième République, qui est organisée selon deux principes contradictoires qui se trouvent en tension dans la rédaction, et surtout dans cette sollicitation récurrente donc du vécu. Donc la première tendance relève de la rénovation pédagogique. Il s'agit de l'aspiration à la mise en place d'un enseignement spécifique au primaire qui va être fondé sur la méthode intuitive, sur l'observation et sur l'activité de l'élève. L'exemple parfait en est la leçon de choses. Donc cette pédagogie qui est repensée par les républicains, eh bien, est inspirée des pédagogues suisses de la fin du XVIIIe, elle est inspirée aussi de Rousseau, et elle souhaite prendre en compte l'élève comme individu. Mais il y a une seconde tendance qui relève, elle, de l'idéologie politique. Et c'est celle d'un conservatisme social qui est encore bien présent dans l'action des Républicains. Les Républicains sont en effet soucieux du maintien de l'ordre social, surtout après tous les événements du XIXe siècle, les crises politiques, et bien sûr la Commune de Paris de 1871. Excusez-moi. Donc le but est de maintenir une organisation sociale stable, fondée sur une répartition des rôles sociaux. Et l'école, donc, doit jouer un rôle dans ce maintien donc, de la stabilité sociale. Donc pour cela, on met en place une éducation autoritaire, qui va viser cependant l'autonomie des personnes, mais dans le droit civique. Et cette éducation, donc, est fondée sur l'inculcation morale et sur la fidélité à la patrie, qui sont les thèmes les plus importants. Donc, on le voit, la rédaction va porter les traces de cette double aspiration. D'un côté, il s'agit bien de fonder l'apprentissage de la langue sur l'écriture individuelle, mais en l'utilisant comme élément d'édification morale. De même, s'il faut donner aux enfants des classes populaires la maîtrise écrite du français, on ne veut pas excéder le cadre d'un enseignement pratique, et c'est pour cela que les élèves vont écrire à partir de ce qui est à leur portée, c'est-à-dire leur vécu, sans avoir recours à la littérature classique, qui est le domaine réservé du secondaire. L'utilisation donc du vécu et du quotidien va être une utilisation régulière. Alors, une remarque cependant, ces rédactions qui sollicitent le vécu ne sont pas des écrits autobiographiques. Elles répondent à un constant souci d'édification morale et plutôt que de raconter de véritables souvenirs, eh bien, on attend en réalité des élèves qu'ils écrivent des scènes élaborées à partir de schémas qui sont transmis par les dictées, par les récitations et par toute la littérature scolaire. Donc ces récits généralement sont introduits et induits par des consignes très directives et ce sont des sortes de scénarios prédéfinis qui sont empreints de bons sentiments. On trouve par exemple le scénario de la veillée en famille. Alors, c'est ce que j'ai trouvé en feuilletant les cahiers. On va trouver bien sûr celui du jour de la rentrée et ainsi de suite, les travaux au champ. Bien. Et tous correspondent vraiment à des stéréotypes de la littérature scolaire. Alors, je vous ai reproduit là un devoir d'élève de 1924. C'est un devoir donc de cours moyen qui est conservé au musée de Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val-d'Oise. Je vous le lis. Un jour d'hiver, vous êtes seul étudiant vos leçons près du feu. On frappe à la porte, c'est un mendiant transi de froid. Tracez son portrait, dites ce que vous faites. Et je vous ai indiqué, les annotations en rouge sur le cahier sont en caractère gras, donc sur le côté. Un jour d'hiver où il faisait très froid, je suis au feu étudiant mes leçons. J'étais seul car ma mère est partie aux commissions quelque part. Je fais attention au feu car il ne fait pas chaud sans feu. J'entends quelque chose frapper. Qu'est-ce que c'est ? Un mendiant qui frappe à la porte. Je vais vite voir qui c'est. Je le vois et je lui dis « Entrez, vous chauffez car il fait très froid. » Et il fait un grand vent et il a même gelé. Il vient près du feu, je lui donne une chaise pour qu'il s'assisse et qu'il puisse se chauffer. Je reprends mes livres et je continue à prendre mes leçons. Quand il m'adresse la parole, je lui réponds, je lui donne ce qu'il demande. Il a une veste toute cassée, déchirée et un pantalon peu épais en coton.
Je pense que c'est l'abbé Pierre.
Voilà. Mais l'enseignant n'est pas tout à fait d'accord avec... Donc, l'enseignant accompagne, je le vois, je lui dis « Entrez vous chauffer, sans doute. » Je reprends mes livres et je continue à prendre mes leçons, tu ne t'occupes pas de lui. Quand il m'adresse la parole, je lui réponds, je lui donne ce qu'il demande. « Quoi ?» Donc, que lui donnes-tu ? « Tu ne lui offres pas à manger, tu ne lui donnes même pas un morceau de pain. Cela prouve ton bon cœur, devoir nul. » Alors, dans ce devoir, donc, l'élève a bien tenté de s'approcher le plus possible du canevas qui lui était imposé en insistant sur les oppositions entre la froidure, les vêtements déchirés, abîmés. Il cherche bien sûr à rendre sensible la pauvreté du vagabond. De plus, comme il connaît les implicites moraux de la rédaction, eh bien, il met en scène deux comportements, enfin, il me semble, qui correspondent au portrait du bon garçon. Premièrement, il répond poliment. Et deuxièmement, eh bien, il continue à prendre ses leçons. Mais on le voit, eh bien, ces comportements ne correspondent pas à ce qui était attendu, c'est-à-dire au scénario de la charité. Et finalement, l'élève est sanctionné pour ne pas avoir répondu à ce scénario, et on le voit, son devoir subit le même sort. La critique s'adresse à la personne, et par un retour donc, de bâton, si je puis dire, s'adresse aussi au devoir qui est estimé nul. Alors, nous le voyons donc dans ce contexte, l'élève est contraint de réorganiser son vécu pour le rendre conforme à ce qui est attendu. C'est-à-dire que la demande autobiographique répond aux deux contraintes de la rédaction dans le modèle traditionnel. D'une part, elle facilite l'apprentissage linguistique grâce à l'évocation du vécu, qui est une matière toujours disponible. En même temps, eh bien, elle va permettre l'acquisition de valeurs morales et l'éducation du citoyen par la réécriture qui est imposée de ce vécu. Alors, je vais passer au deuxième modèle, celui de l'expression écrite, et je prendrai pour exemple donc les textes libres. Alors, le modèle traditionnel de la rédaction ne va pas résister à la crise de la fin des années 60 et à la secousse de mai 68. Il a déjà été remis en question depuis la fin de la guerre, et même bien avant, dans les mouvements d'éducation nouvelle, hein, comme le GFEN, comme le mouvement Freinet. Mais ce sont particulièrement les travaux de la commission Rouchette, puis leur expérimentation qui vont révolutionner la rédaction dans l'école entre 1868 et 1971. Donc finalement, les instructions de 1972 vont enterrer définitivement le modèle républicain en instituant le modèle de l'expression écrite. Alors, je vais faire une présentation de cette période qui est un petit peu... C'est une période extrêmement foisonnante, c'est une période très riche, riche de tensions, et je vais en faire une présentation réductrice, incomplète. Si je ne souligne pas les oppositions qui existent entre les trois textes qui me servent de référence, ce n'est pas, c'est simplement parce que mon projet est plutôt de vous dessiner les contours d'un type de rédaction. Alors, dans le modèle de l'expression écrite, eh bien, l'influence de Freinet est indéniable. On retrouve des références aux textes libres dans les propositions de la commission Rouchette en 1969, dans le plan de rénovation de 1971 et dans les instructions de 1972. Donc c'est pour cette raison que je vous propose de considérer le texte libre comme représentation de la sollicitation du vécu à l'école pour cette période. Cependant, le texte libre qui est mis en place entre 1969 et 1972 n'est pas celui de la pédagogie Freinet. Leur point commun est de faire appel au vécu de l'élève, de se fonder sur son activité créatrice, mais il y a des aspects fondamentaux qui les différencient. Alors, chez Freinet, le texte libre est une activité centrale qui répond à différentes fonctions. La première fonction, eh bien, c'est que le texte libre n'est pas seulement un moment de liberté d'expression personnelle, c'est aussi un outil pédagogique. Les écrits des élèves sont au cœur de toute la pédagogie coopérative, puisque en donnant la parole aux élèves, eh bien, le maître prend connaissance de leur centre d'intérêt qui deviennent la base du programme de la classe. C'est la première fonction. La deuxième, c'est que ces textes sont l'occasion de reconnaître l'enfant comme un individu à part entière. Cet individu est inclus dans le groupe social où il transporte les éléments de sa vie extérieure. En effet, pour Freinet, l'élève ne peut avoir deux vies, une hors de l'école et une dans l'école. L'écriture va être justement cet élément de réconciliation et d'inclusion de l'enfant dans le groupe. Troisième fonction, eh bien, c'est une fonction politique. Et la dimension politique est importante chez Freinet. Freinet entend redonner la parole aux enfants du peuple grâce aux textes libres. Car pour lui, l'école traditionnelle entretient le clivage entre bourgeoisie et prolétariat en privant ce dernier du véritable moyen d'expression et de pouvoir qu'est l'écriture. Alors, ces trois caractéristiques font que les textes libres de la pédagogie Freinet sont des éléments de socialisation. Ils sont destinés à être lus par le groupe, de la classe et par les correspondants. Le vécu qui s'y exprime peut être collectif. Voilà, comme dans les deux exemples suivants, qui ont été rédigés en 1928 dans la classe de Freinet, à Bar-sur-Loup, et il se trouve dans un très bel ouvrage de Michel Barré, qui est consacré au texte des élèves de Freinet, et qui justement, d'ailleurs, est publié par l'INRP. Nous avons fait des gâteaux. C'était de la cendre pétrie avec de l'eau. Henri préparait les gâteaux dans des ménages. Moi, je les enfournais avec ma pelle. Quand ils étaient cuits, je les donnais à mon frère. Autre texte. Il fait chaud. Nous courons pendant la récréation. Nous sommes en sueur. Nous voudrions toujours jouer dans l'eau de la fontaine. Le soir, Francis va nager dans le Loup. D'autres enfants nagent dans les bassins. Pierrot assied un tonneau qu'il met dans le bassin, c'est son bateau. Le soir, nous jouons au frais. Ce sont des textes qui sont exactement sur le modèle de tous les textes que l'on trouve produits par la dans les classes donc de Freinet. Donc l'un des éléments les plus marquants, bien sûr, de ces écrits est certainement l'emploi répété du pronom du pluriel, du « nous ». Celui-ci est bien la marque du collectif dans laquelle l'élève en tant qu'individu se fond. Et on peut constater donc de ce que cette fusion de l'individuel au sein du groupe est sensible justement par des glissements qui permettent d'inclure constamment l'individu dans la communauté. Alors, nous y retrouvons là une conception, je disais, politique de l'écriture qui est appréhendée comme moyen d'expression sociale. Et le principe même de l'écriture autobiographique, utilisé non pas comme facteur d'individualisation ou d'introspection, mais à l'instar des littératures prolétariennes des années 1930, eh bien l'écriture autobiographique est un élément de cohésion du groupe social. Alors, il n'en est pas de même dans le cadre de la rénovation du français, où les emplois du texte libre, donc, sont tout à fait différents. Alors, pour l'expliquer, eh bien, il nous faut revenir assez rapidement aux concepts d'enseignement de la langue qui sont mis en place lors de la rénovation. Le projet d'instruction de 1969 et le plan de rénovation envisagent deux temps dans l'apprentissage de la langue. Une phase de mise en œuvre des moyens linguistiques dont dispose l'élève, qu'on appelle aussi la phase de libération, et une phase de renforcement et de structuration des formes syntaxiques. Donc, le plan de rénovation y ajoute une dernière étape qui est la synthèse, hein, au cours de laquelle donc se manifeste le transfert. Le texte libre apparaît dans la première période, dans la première phase de l'écriture, c'est-à-dire au moment de la libération et de l'expression, et l'élève n'est jamais contraint de faire lire ou de donner à l'enseignant ce qu'il a produit. C'est donc que, contrairement à la situation précédente, eh bien, le texte libre n'est pas un élément de socialisation. La sollicitation du vécu relève d'un autre principe. Le projet, en effet, est de permettre à l'élève de découvrir son individualité, qui sera l'élément premier de toute démarche d'apprentissage. Et c'est à partir de cette découverte de son individualité, eh bien, qu'il pourra découvrir les autres et le monde. Je vous lis rapidement dans le plan de rénovation à la page 15, à propos donc du maître de français. Il lui revient d'utiliser ou de susciter des situations dites éducatives propres à faciliter à son élève cette rencontre de lui-même, c'est le premier point, des autres, du monde et de la connaissance. Donc l'objectif de ces écrits est l'élaboration de l'élève comme sujet de l'expression et non pas la cohésion d'un groupe. La sollicitation du vécu donc est un élément de motivation et de libération qui va précéder la phase de structuration. Alors, je ne possède pas beaucoup d'exemples pour cette période, simplement parce qu'il est difficile de trouver des travaux d'élèves. Hein, les supports ont changé. Depuis 68, on le voit très nettement dans les cahiers. Les supports ont changé, les modes de travail aussi. Et on travaille beaucoup moins sur le cahier, certainement plus sur des fichiers et sur des feuilles. Alors, voici tout de même, en cherchant bien, on en trouve quelques-uns. Voici donc un texte libre rédigé en 1974 que j'ai trouvé au musée d'éducation de Rouen. Ma première leçon d'équitation, un jour que je souhaitais faire du cheval, mon papa m'a inscrit à la société hippique de Pomerival. Le jour venu, je me rendis au manège. Le cercle hippique est situé dans une grande cour de ferme. Autour, il y a une grange, des écuries, un bâtiment ouvert pour ferrer les chevaux et une maison dans laquelle se trouvait le bureau. La cour s'ouvrait sur une grande prairie où galopent des chevaux en liberté. Le moniteur me désigna mon cheval, il s'appelle Où vas-tu, et celui de ma sœur, Napoléon. Je prends mon cheval par la bride et l'emmène dans le grand bâtiment qui abrite le manège. Le moniteur m'a appris à monter en selle, puis à marcher au pas et au trot. Je suis satisfait de cette première leçon, et Sophie aussi. Donc, à la différence des textes précédents, nous avons une centration beaucoup plus importante sur le scripteur lui-même. Il se place, tant du point de vue grammatical que sémantique, comme élément organisateur de l'ensemble. Il parle en son nom propre. L'expérience relatée est là strictement personnelle. Donc, il s'agit d'un fait privé. Et c'est autour de cet événement vécu, bien sûr, que s'organise le récit. Alors, pour terminer, le recentrement sur le sujet n'a pas été considéré comme un but en soi par les acteurs, malgré tout, de la rénovation. Il ne faudrait pas réduire la rénovation à cette démarche. Et il est nécessaire de souligner que la sollicitation du vécu n'a pas fait l'objet d'un consensus. C'est-à-dire que si les instructions de 1972 s'arrêtent à cette sollicitation, eh bien le projet des enseignants et chercheurs qui avaient participé à l'élaboration du plan était de mettre en place différentes phases et d'utiliser cette période justement pour structurer des apprentissages. Hein, donc c'est important. Alors, je vais passer à la troisième partie, le modèle de la production de texte et le déclin de la sollicitation du vécu. Donc, la situation va changer au cours des années qui suivent et la sollicitation du vécu va cesser d'occuper une place centrale dans les rédactions à partir des années 1980. Ce qui peut se comprendre par la conjonction de deux facteurs qui sont d'une part la théorisation de l'apprentissage de l'écriture et les changements d'objectifs de l'enseignement du français en général. Alors, en effet, les apports de la linguistique textuelle, de la psychologie cognitive contribuent à décrire avec précision les activités de l'élève et également les caractéristiques des textes à produire. D'autre part, les exigences sociales en termes de réussite scolaire pour tous vont se faire de plus en plus pressantes. Les différents ministères donc vont recentrer les apprentissages autour d'objectifs précis, définis donc dans les textes officiels. La maîtrise de la langue va devenir une priorité nationale, à la suite de la prise en compte de l'illettrisme notamment. Et pour en mesurer l'acquisition, eh bien, le ministère va instaurer en 1989 donc des évaluations nationales du savoir lire, écrire, compter dans le primaire. Et très tôt, le texte libre eh bien, est l'objet de critiques sévères. On lui reproche son absence de cadre théorique, de ne pas favoriser les apprentissages, d'être impossible, difficile à évaluer, à corriger. Et finalement, eh bien, il va disparaître des textes officiels dès juillet 1980. Alors, la rédaction va de nouveau changer officiellement de nom. D'expression écrite, elle devient production de texte dans les instructions de 1995. Apprendre à écrire est considéré comme une activité programmable qui va mobiliser chez le jeune scripteur des savoirs procéduraux, linguistiques et textuels. Donc, l'objectif principal n'est plus ni l'édification morale, ni la libération de l'expression, mais l'acquisition d'une autonomie dans la production de texte. Et ces textes, donc, doivent répondre à des normes textuelles, linguistiques précises. Donc, le récit de souvenirs n'est plus qu'un type de texte parmi d'autres, et les prescriptions officielles n'y font plus du tout référence. Alors, il ne faudrait pas voir, cependant, une dissolution de la place accordée à l'élève comme individu dans le système scolaire. Bien au contraire, hein, puisque nous savons que la loi d'orientation, par exemple, le place, comme on dit, au cœur du système, et on peut même, à mon avis, supposer comme Antoine Pro dans l'histoire de la vie privée, eh bien, qu'à la fin des années 80, la séparation entre les sphères publiques et les sphères privées est beaucoup plus nettement affirmée. Hein, par exemple, l'article 16 de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, eh bien, insiste sur le principe d'une vie privée propre à l'enfant et d'une intimité inviolable. Ce qui fait qu'à l'école, eh bien, on va retrouver cette nécessité, ce souhait, de séparer clairement ce qui relève du privé et ce qui relève du public. Donc les instructions de 2002 vont renforcer en certains points ce modèle et elles insistent en particulier sur l'objectif d'autonomie. Cependant, et je finirai donc sur cette partie, sur ce point, elles introduisent les écrits réflexifs. Et je crois que, eh bien, ils méritent qu'on les regarde d'un petit peu près parce que ils répondent, en fin de compte, à trois objectifs qui me semblent importants. Premièrement, ils contribuent à faire entrer l'élève dans un usage plus personnel de l'écrit en développant son autonomie. Donc, à ce titre, eh bien, ce sont des écrits peu évalués et peu formalisés. Deuxièmement, ils favorisent un travail intellectuel dont ils constituent en même temps la trace. Et troisièmement, eh bien, ils confortent les pratiques réflexives qui se développent de plus en plus à l'école, comme dans le reste de la société. Hein, la réflexivité n'est pas le propre de l'école et la société eh bien, pense développer un surcroît d'efficacité, certainement par l'analyse de l'action. Alors, certains aspects de ces écrits peuvent nous intéresser en ce qu'ils sont fondés justement sur l'utilisation du vécu. Et nous avons pu remarquer lors d'une étude précédente avec Claire Doquet-Lacoste sur les carnets de sciences eh bien, que les élèves pouvaient utiliser des récits rétrospectifs pour justement évoquer leur savoir en construction. Donc voici un exemple qui a été écrit en 2003 à propos de la respiration. J'ai regardé les poumons, il y a plein de choses intéressantes à voir. Je n'imaginais pas l'intérieur des poumons comme ça. J'ai vu Marc souffler dans des poumons de lapin, c'était affreux, mais très intéressant pour les expériences. J'ai fait un schéma avec des billes qui représentaient le sang, le dioxyde de carbone et l'air pur. C'était passionnant, mais dur à comprendre. Donc cet exemple répond à l'objectif des écritures réflexives, on y trouve mis en relation trois éléments qui contribuent à l'élaboration du savoir. Un objet du monde à cerner, Ici, il s'agit de la respiration. L'élève utilise un vocabulaire spécifique à cet objet. Une pratique de l'écrit qui doit favoriser la conceptualisation. Là, notre élève a utilisé le récit d'événements vécus, la rétrospection. Et enfin, un sujet qui est impliqué dans l'apprentissage et qui se manifeste par l'emploi de formules évaluatives sur son rapport à l'objet. Et nous pouvons donc remarquer que certaines expressions que j'ai soulignées, il y a plein de choses intéressantes à voir, je n'imaginais pas l'intérieur des poumons comme ça. C'était affreux mais très intéressant pour les expériences, c'était passionnant mais dur à comprendre, relève bien d'une certaine expression du ressenti et du vécu. Alors, nous le voyons donc, ce type d'écriture va construire un rapport particulier au savoir qui s'instaure dans la pratique même de l'écriture réflexive. Voilà, donc je conclurai en disant que nous avons vu que les différents modèles utilisent la sollicitation du vécu avec des objectifs qui sont liés aux conceptions dominantes de l'école et de ses fonctions, ainsi qu'à la figure de l'individu que ce modèle souhaite mettre en place. Donc le modèle républicain a utilisé la sollicitation du vécu pour éduquer un citoyen moral. À l'opposé, le texte libre des années 70 a renforcé la perspective individuelle. Actuellement, donc, c'est un individu autonome dans ses apprentissages qui est visé. Et la didactique de l'écrit prend en compte l'existence d'un rapport à l'écrit et au savoir que l'école construit dans que l'élève construit dans l'école, mais également au dehors. Hein. Et comme le propose donc Marie-Claude Panloup, la connaissance et la prise en compte des écritures extrascolaires peut permettre de mieux appréhender ce sujet apprenant qui se construit donc à la fois dans l'institution et à l'extérieur. Voilà.
Merci beaucoup Marie-France et merci aussi d'avoir tenu la seconde.